France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Arreau-sur-Chine, le mastodonte de la vente en ligne chinoise qui s'installe en France, aux Galeries en Région, donc et aussi au BHV à Paris. C'est une capitulation, voilà ce qu'on entend depuis l'annonce de cette arrivée en fanfare. Chine qui piétine sur son passage nos modèles, nos modes de production avec des vêtements fabriqués dans des conditions sociales douteuses, des vêtements non recyclables à cause de leur piètre qualité. Chine qui contribue à tuer le commerce de proximité, lui donner pignon sur rue. C'est comme donner une carte VIP à un renard pour entrer dans le poulailler. Ceux qui l'accueillent, les Galeries et le BHV, ont passé un pacte faustien. Leur chiffre d'affaires fera peut-être un bond et les galeries comme le BHV en ont besoin, mais ils tirent aussi une balle dans le pied de tous leurs autres partenaires dans le secteur de l'habillement. Qui pourra rivaliser avec le t-shirt à 1 euro que la marque continuera par ailleurs à vendre ultra-massivement en ligne? Voilà donc pour le côté face. Côté pile, vous n'allez pas aimer, mais ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Les marques chinoises, Chine et Temu confondues d'ailleurs, c'est 22% des colis en France. C'est beaucoup. Nous sommes clients, les amis de Chine, alors pas vous peut-être qui nous écoutez, à moins que votre fille, pour une soirée particulière, avant de partir en vacances, quand on sait qu'on va maltraiter ses vêtements ou d'autres occasions, est-ce qu'on peut aussi entendre l'argument du pouvoir d'achat? Entendre même que pouvoir changer de vêtements, pouvoir suivre la mode, c'est une forme d'intégration sociale. Moi aussi j'ai le droit d'un jean tendance, moi aussi j'ai le droit d'accéder au code vestimentaire. Comment on fait avec ceux pour qui Chine est un moyen d'accéder à ça? Et ça aussi, c'est une sacrée bataille. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Céline, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Céline.
Alors, moi, j'avais une remarque et une question. En fait, j'ai une fille qui commande sur Shine assez régulièrement, enfin, de temps en temps. Mm-hmm. Et sa remarque, c'est de me dire, son argument plutôt, c'est de me dire qu'en fait, si elle va acheter, ce qu'elle fait de temps en temps aussi, dans des magasins français, en France, en tout cas, quand c'est à sa portée financièrement, les vêtements sont la plupart du temps fabriqués aussi en Chine. Mmh. Donc, pour elle, elle me dit, bah, la différence, c'est les intermédiaires. C'est ce qui fait la différence du prix. Mmh. Donc, c'est comme ça qu'elle voit les choses.
Et ben, c'est intéressant. Pardon, vous vouliez ajouter quelque chose? Vous aviez une question derrière, Céline?
Bah, je me dis que c'est pas tout à fait faux quand même. C'est vrai que c'est difficile de trouver des vêtements qui sont pas fabriqués en Chine, même dans les magasins à la portée de tout le monde.
Et sans parfois savoir non plus dans quelles conditions ils sont faits. Merci beaucoup Céline pour cette première question et cette entrée en matière. Pour discuter ensemble jusqu'à 20h avec nous, il y a Yann Rivoallon, pardon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Il y a Franck Leuillet, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur d'études et de la recherche au Crédoc, vous êtes spécialiste de la silver economy et des modes de consommation et aussi de l'habitat. Et puis Agnès Soubiran, bonsoir Agnès.
Bonsoir.
Chef du service éco et social de France Inter, c'est vous. Yann Rivoallon, il est intéressant cet argument en fait.
Cet argument est très intéressant et il montre que malheureusement cette jeune fille est victime d'un des nombreux mensonges de Chine. L'origine de Chine, c'est le Rama Plaza, c'est-à-dire des usines qui avaient des actions criminelles, voire esclavagistes, et qui n'ont pas pu travailler avec un certain nombre de marques parce que, suite au Rama Plaza, on a mis des normes. Or, un certain nombre d'usines n'ont pas pu travailler, elles se sont réunies toutes ensemble, et elles ont créé ensemble le monstre Chine. Or, il y a Chine et Chine. Mmh. Il y a fabrication dans des entreprises qui sont normées avec des contrôles. On peut prendre une société comme Kiabi qui fait des contrôles dans toutes ses usines. Et à l'inverse, chez Chine, il y a l'exploitation uniquement dans des petits ateliers avec des personnes qui doivent travailler de 75 à 100 heures par semaine pour à peine un centime par vêtement.
Donc tous les autres vêtements qui ne sont pas chers, qui sont toujours un peu plus chers que Chine, on est d'accord, mais qui ne sont pas forcément chers et qui sont fabriqués en Chine, eux, on peut dire qu'ils sont vertueux.
Il y a en effet des contrôles qui sont effectués sur tous ces produits. Je pense qu'il faut aller plus loin, par exemple, aller sur le devoir de vigilance pour avoir un contrôle encore plus important. Et surtout, avant de mettre en place toutes ces lois, il faut interdire Chine et toutes ces importations, parce qu'on sait que derrière chaque produit Chine, il y a nécessairement des personnes qui sont exploitées.
Est-ce que vous dites, Yann Rivoallon, et on posera aussi la question à Franck Leuédé, au fond, c'est qu'au point où nous en sommes aujourd'hui, et on peut peut-être le déplorer, mais pour que l'ultra-fast fashion s'arrête, il faut interdire Chine, en fait. Ça ne passe que par l'interdiction de Chine. Ça ne passe pas par nous qui arrêtons d'acheter ce genre de produits. Ça, c'est trop tard.
Et s'il y avait seulement Chine, Temu, TikTok Shop, encore AliExpress. Vous avez cité le chiffre de 22% en fait, de colis. Ouais. Désormais, c'est beaucoup plus.
Ah bah, vous voyez.
Parce que si je prends ces quatre-là, désormais, on a largement dépassé les 30%.
Mais du coup, ça veut dire que pour arrêter l'ultra-fast fashion, il faut arrêter à nos frontières ces produits-là. Nous ne sommes plus capables de nous arrêter nous-mêmes, c'est ça que je veux dire, y compris dans notre consommation.
On ne peut pas arrêter une addiction. On avait une addiction à la cigarette. On a élevé le prix pour qu'on consomme moins. On doit faire évidemment la même chose. Les États-Unis ont une règle très simple. Ils ont mis en place une taxe de $100 sur les colis. Ouais. Ils l'ont même augmenté par la suite. Et en effet, ça a stoppé les ventes.
On va y venir aux petits colis ou pas, à ce qui est en cours d'ailleurs avec la loi, parce qu'il y a des choses qui sont en cours, mais on sait tous que pour l'instant, au Parlement, il ne se passe pas grand-chose. Je voudrais quand même, Franck Luédé, s'il vous plaît, qu'on revienne sur ce terme d'addiction qu'a employé Yann Rivoallant dans vos études. Est-ce que vous diriez que oui, l'ultra fast fashion a créé ce genre de choses, c'est-à-dire une addiction à acheter des fringues un peu de manière compulsive?
Alors, il y a sans doute en effet une partie de la population qui a trouvé, grâce à ces sites d'ultra-fast consommation, une possibilité d'acheter en grand nombre des vêtements qu'elle remplace régulièrement. C'est un des atouts en fait qu'amène pour les consommateurs ce type de site et de solution, c'est de dire bah, vous allez trouver à pas cher des produits qui sont en grande, enfin une variété de produits en grande quantité et puis qui va être renouvelé régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose qui est attendu par une partie de la population aujourd'hui. On a quand même 30% des Français qui, sur les 12 derniers mois, sont allés sur les sites type Shein, Temu ou AliExpress.
30% des Français ces 12 derniers mois, ça fait beaucoup de monde. Parce que, avec ce paradoxe quand même, parce que dans l'étude que vous aviez publiée précédemment, Franck Léuédé, j'ai lu que c'était aussi la source de ce qu'on appelle les achats-erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, on consomme de manière compulsive, on achète de manière compulsive, et puis après on se rend compte que finalement, c'était pas exactement ça et c'est pas ce qu'on voulait. Et on renvoie pas dans des endroits comme ça.
Alors ça, c'est sans doute en effet une dimension qu'on a du mal à mesurer, qui va nourrir ensuite le marché de l'occasion, par exemple. C'est le fait de se dire, on va acheter, c'est pas cher, tant pis. Il y a un certain nombre de Français dans notre enquête qui nous disent, moi j'ai acheté pour une soirée, pour une occasion particulière, peu importe ensuite que je le reporte pas. Donc on a vraiment, avec ces sites-là, une possibilité d'avoir, pour les consommateurs, pour une partie de ces 30% de gens qui sont passés par ces sites, la possibilité d'accéder à une garde-robe énorme au niveau international.
Je voudrais qu'on reste un peu sur ce thème, et c'est grâce à vous, Céline, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Moi, quand je vous écoute, je me dis que c'est l'occasion de repenser un peu notre rapport aux achats de volume, à vouloir accumuler des habits dans notre garde-robe. Et on voit que des choses qu'on n'a pas mises depuis des années, ça voudrait sûrement une belle pièce française qui aurait été faite par des artisanats, par peut-être mon voisin qui aura un partage de la valeur, enfin un salaire où il y aura un partage de la valeur plus équitable que dans les marques qui ont été évoquées tout à l'heure, ou même s'il y a des contrôles de qualité, la question du partage de la valeur et du niveau de vie n'est quand même pas semblable à la nôtre. Donc voilà, moi je me dis que c'est aussi un moment de repenser ces modèles volumiques où l'idée c'est toujours accumuler plus, sans penser à se dire que c'est nos voisins qui travaillent, nos cousins ou d'autres gens qui ont besoin de...
Merci.
Avoir des salaires honnêtes.
Merci beaucoup, Céline. Merci pour votre remarque. Franck Luédé, je donnerai la parole là-dessus aussi, Yann Rivoallant. Bien sûr, elle a raison, Céline. Mais quand je regarde votre étude, je vois que 19% seulement des gens pensent que leurs achats sont excessifs. 19%, finalement, c'est pas tant que ça. Vous avez dit que 30% des gens avaient été sur ce genre d'achats et de sites dans l'année écoulée. Il y a 120 millions de vêtements achetés, je l'ai lu aussi dans ce que vous avez écrit, il y a plus de 3 mois qui sont encore dans les placards. Le sens de ma question, c'est cette marche-là dont parle Céline, nous ne l'avons pas franchie, sommes-nous incapables de la franchir?
Si vous voulez, on est aujourd'hui chez les consommateurs majoritairement dans une perception assez classique de la consommation dans laquelle on va acheter des produits neufs qui vont nous permettre de nous distinguer des autres. Cette notion de distinction, elle est essentielle, fondamentale. Et puis, une fois que les vêtements seront usés, on va racheter à nouveau des produits neufs. Donc cette notion-là, elle est importante. Ceci dit quand même... deux éléments. Le premier, c'est que en matière de motivation d'achat, on voit quand même monter une recherche de produits made in France, made in Europe. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel les consommateurs vont essayer de trouver une offre, mais elle n'existe pas toujours, ou elle n'est pas en tout cas suffisamment accessible pour eux, à la fois géographiquement, mais aussi en termes de prix, parce qu'on s'est habitué à des prix qui sont très très bas. Les étapes qui nous amènent à l'ultra-fast consommation, elles ne commencent pas là, au début des années 2020, avec Shein et Temu. Elles commencent bien avant, avec l'arrivée des enseignes comme H&M, qui ont mis en place déjà des systèmes où il y avait des remplacements de gamme très très régulières dans leurs magasins et des prix qui étaient déjà nettement plus bas que ce que l'on trouvait avant. Donc c'est une avancée, une évolution qui va encore plus loin que le modèle H&M, mais qui était déjà existant dès les années 2000.
Où est-ce qu'on en est, Yann Rivoallan, des projets de loi qui ont été mis sur la table? Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas inintéressantes, l'interdiction de la publicité pour ce genre de site. Il y avait le fameux bonus-malus sur la durabilité des vêtements. Il y avait aussi l'histoire des petits colis. Où est-ce qu'on en est?
Alors d'ailleurs, je suis très inquiet parce que nous n'avons pas encore le retour de l'Europe sur tous les articles de loi qui ont été votés à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y avait trois points. Le premier, c'était d'interdire l'intelligence artificielle qui permet la conception de tous ces produits. Parce que le premier article permettait de se dire, quand on fait par exemple plus de 1000 références par jour, alors on est une marque d'ultra fast fashion. On ne peut en faire 1000 qu'en faisant de la contrefaçon avec de l'IA, des fausses photos et la fausse fabrication. Ouais. Le deuxième point, c'était de mettre un système de bonus-malus en fonction de la qualité de votre produit, qualité du produit qui est mesurée par l'Ecoscore, qui est devenu officiel depuis 2 jours.
C'est vrai, mais n'est pas obligatoire. Il est sur la base du volontariat.
Il n'est pas obligatoire, mais on avait trouvé un système avec, par exemple, le Sénat, pour reprendre tous les critères de l'Ecoscore et ainsi mettre un système de bonus-malus, un bonus quand la note est bonne, un malus quand la note est mauvaise.
Avec, sur notamment la durabilité, et moi je reviens à l'une des questions, à la question de notre première auditrice, les autres, on ne va pas citer de marques, mais enfin on les connaît, ces marques de fast fashion, effectivement, qui sont toutes là et qui ont pignon sur rue, elles le passent l'éco-score textile ou pas?
C'est pour ça qu'il faut rentrer.
Pas plus que Chine, en fait.
Ah, il faut rentrer dans le détail. Par exemple, Chine, c'est simple, c'est 85% de produits en polyester. C'est tous les produits qui sont amenés en avion. Donc de ce fait, on a nécessairement un éco-score qui va être dramatique à cause de cette pollution et à cause de ces produits qui sont durables parce qu'en plastique, mais catastrophiques pour l'environnement, voire même notre propre santé. À l'inverse, si je prends une société comme par exemple Kiabi, où il y a à peine 7% de produits en polyester, bah là, et la majorité des produits qui sont amenés par contre en bateau, on va avoir une bien meilleure note à l'éco-score. Et je pourrais vous citer comme ça des dizaines de marques françaises qui font des efforts extrêmement importants pour avoir des produits de qualité.
Mais ça veut dire que donc ces fameuses marques qui viennent d'importation chinoise, enfin allons-y, les H&M par exemple, etc., encore une fois, ça passe la rampe ou pas?
Mais d'où l'intérêt de l'éco-score, parce que pour l'instant, on ne mesure pas précisément. Et le consommateur n'a pas nécessairement la présence d'esprit de voir sur l'étiquette si le produit est en polyester ou pas. Il n'a même pas la présence d'esprit de savoir, en fin de compte, si c'est bon ou pas pour lui, parce qu'on a perdu cette habitude. Je reviens par exemple sur votre auditrice précédente, qui conseillait d'avoir juste une utilisation, une vraie partage de la valeur.
Bien sûr.
Il y a un premier point qui est, dans son armoire, on se trompe constamment sur le nombre de pièces qu'on peut avoir. Quand on interroge n'importe quel d'entre nous, on se trompe du simple au double. Je crois avoir en fait 50 pièces dans mon armoire.
J'en ai 100.
En fin de compte, j'en ai 100. Donc de ce fait, il y a l'obligation de pouvoir aider le consommateur à retrouver des simples habitudes qu'on avait il y a 30 ans, il y a 40 ans, où on gardait ses vêtements, où on les réparait. Et grâce à cela, on avait des vêtements avec une meilleure matière, avec des meilleurs boutons. Et on était très fiers de ce qu'on portait. Désormais, en effet, on prend les vêtements, on les jette. Je reprends une statistique aussi sur Chine. Dans tous les bacs qu'on voit où on jette des produits de seconde main, sachez que sur Chine, pour un produit sur deux, il y a encore l'étiquette.
Ouais, je voudrais vous parler de polyester justement et de qualité aussi de ces vêtements-là. Je voudrais qu'on écoute Romain qui est avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Romain, allez-y.
Ma réflexion, elle est toute simple, si vous voulez, c'est que je trouve que ces produits, en plus d'avoir une qualité effectivement qui est on ne peut plus médiocre, peuvent être présentes pour moi un risque sanitaire. En tant que médecin, si vous voulez, j'ai déjà traité plusieurs réactions allergiques dont le dénominateur commun était en fait soit le port de vêtements, soit l'achat de de ces produits sur ces sites, parce qu'en fait, il n'y a aucun contrôle sanitaire par rapport à ce qui peut être fait en France. Et ça pose déjà problème, en plus d'avoir un impact délétère sur l'environnement. Quoi.
Est-ce que ça, c'est mesurable, Yann Rivoallant? Et donc, on peut dire, enfin, je dirais, est-ce qu'on pourrait estampiller une étiquette marquée « vêtements dangereux » ?
Alors c'est très simple, l'État l'a mesuré, puisqu'on a pris des produits Chine et Temu, et on a vu que 94% d'entre eux étaient hors normes, et les deux tiers étaient dangereux. On a retrouvé un lit qui était présenté par la Fédération du meuble, qui montrait qu'un lit pouvait étouffer un enfant. Donc on a, avec ces produits, en effet un risque sanitaire qui est important, à la fois parce que ces produits sont toxiques, là aussi on a trouvé des chaussures qui avaient par exemple du plomb et qui pouvaient contaminer les enfants et entraîner des cancers. Donc oui, ces produits sont toxiques, or on en a tellement qui arrivent par seconde, près de 150, que en effet les douanes sont complètement envahies et on ne peut pas contrôler ces produits.
Est-ce qu'on peut expliquer, Agnès Soubiran, ce que c'est la stratégie de Chine? Pourquoi? Parce que ça marche tellement bien en ligne. Enfin, je veux dire, ça sert à quoi de s'installer, d'avoir pignon sur rue?
C'est chercher de la respectabilité. C'est-à-dire que c'est pas sûr que ça augmente leur chiffre d'affaires de venir vendre quelques centaines, quelques milliers d'articles au BHV ou dans les Galeries Lafayette, vous l'avez dit, alors qu'ils en vendent des centaines de milliers en ligne. Donc, ça va pas là forcément leur apporter plus. C'est... voilà, s'offrir une belle vitrine dans des très beaux magasins, que ce soit le BHV ou les Galeries Lafayette. Chine a trouvé un interlocuteur qui a envie de s'offrir sans doute un peu de publicité pour faire venir dans ces magasins où on va moins des jeunes clientes, voilà. Ouais. Alors que c'est pas la clientèle habituelle des Galeries Lafayette ou du BHV. Ouais. Donc voilà, conquérir une nouvelle, faire venir d'un côté et conquérir de nouveaux clients de l'autre.
Et peut-être Franck Lévédé, en écoutant Agnès, je me demandais si la stratégie n'était pas aussi justement que ce vêtement ne soit pas seulement désirable, mais aussi acceptable en fait, puisque la réputation est mauvaise. Quand on va l'acheter au BHV ou dans une galerie, on a l'impression de s'exonérer d'une espèce de faute, en fait, non? Est-ce que ça peut jouer auprès du consommateur?
Ça peut jouer au niveau du consommateur, dans le sens où, en effet, votre journaliste l'a dit, c'est s'acheter une respectabilité. Les consommateurs, ils sont sensibles à pas mal de dimensions. On va parler du prix, on va parler du design, de la manière dont le vêtement est joli, adapté à ses formes. Mais ils vont être aussi sensibles au fait qu'autour d'eux, eh ben, on va aller acheter ce type de vêtements. Et donc là, l'idée, c'est sans doute de jouer un peu sur ce qu'on appelle la norme sociale pour qu'on se dise, bah tiens, moi je ne l'aurais pas fait, mais mon voisin l'a fait, c'est et ça. Il l'a fait en allant aux Galeries Lafayette, bah du coup, moi je passe le pas et j'y vais aussi.
Ouais, ouais. Je voudrais que vous soumettre à tous ce message de Laura sur WhatsApp qui dit ceci. Elle dit, je fais partie d'un groupe textile dont on vient d'annoncer le placement en redressement judiciaire. À la clé, il y a 1000 emplois, et donc encore un, dit-elle, parce qu'elle a raison, encore un groupe textile. Quant à la mise en place en France de taxes sur l'importation des biens de consommation textile pour les marques comme Chine, Temu, je ne suis pourtant pas pro-Trump, mais lui a réussi à l'imposer. La France va-t-elle attendre que toute l'industrie textile française soit morte pour agir? Yann Rivoallant, la méthode de Trump, c'est sur les petits colis, un droit de douane rédhibitoire. Mm-hmm. Même dans le projet de loi, on n'en était pas là, nous. On n'était pas si haut.
On n'était pas très loin, en fin de compte, parce que dans un colis Chine, il y a à peu près une dizaine de produits. Et comme il y avait un malus de 5 euros par produit, ça permettait au moins de mettre un malus de 50 euros au total. En effet, Trump a été très loin, parce qu'avec ses 100 euros qu'il a encore augmenté par la suite, bah, il a bloqué tous ses petits colis, et ainsi, il protège l'Amérique, ce qui a entraîné une déferlante supplémentaire en France, parce que du moment où Trump a bloqué ses colis, Chine, Temu et consorts ont voulu retrouver du chiffre d'affaires en Europe, et ont dépensé encore plus de publicité sur tous les médias, et on a pu le voir sur Google ou n'importe quoi, dès qu'on tapait n'importe quelle marque, instantanément, on avait une publicité pour Chine et pour Temu. Résultat, une augmentation du chiffre d'affaires de Chine et Temu de 28% immédiatement. Mmh.
Est-ce qu'on peut, Agnès, le faire ce tour d'ailleurs des entreprises comme celle de Laura qui se sont cassées la figure ces dernières années? Ça a été une vraie hécatombe dans les moyens de gamme, moyenne gamme, moyen vaguement haut.
C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de moyens de gamme en fait. On a un marché où on a d'un côté l'ultra fast fashion, des produits vraiment pas chers, de l'autre côté des produits, on dit premium, mais des produits français fabriqués en France avec des prix... cher, voilà, au moins au départ. Après, on va dire qu'il dure longtemps, mais en tout cas, au départ, il faut sortir plusieurs dizaines d'euros. Et donc, on assiste effectivement à ce moyen de gamme. Bon, on a parlé de Pimkie, on a parlé de Jennifer. Ces marques ont disparu. Il y a plus. Alors, quelques-unes ont su se relancer, mais la grande majorité a disparu. Et on a maintenant deux secteurs vraiment complètement opposés.
Alors, j'ai deux questions pour chacun d'entre vous. D'abord, la première, pourquoi ceux qui tiennent le coup, et tant pis, on va citer des marques, mais par exemple, l'exemple type Cesara, qui est aussi une énorme machine, mais qui tient le coup, comment ils tiennent le coup, par exemple?
Alors, ils vont moins bien qu'il y a quelques années. Non.
Il y a Yann Rigolant qui fait ouais, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller du côté. Mais du coup, comment ils se débrouillent?
Zara, c'est quand même un peu la fast fashion. C'est les ancêtres de la fast fashion, mais c'est quand même pas forcément le moyen de gamme.
Zara, c'est clairement de la fast fashion. Zara, c'est, et pour revenir en fait sur les 10 000 produits qui sont faits par jour, par exemple sur Chine, Zara, c'est à peu près 100 produits par jour. Donc c'est fast, parce qu'il y a beaucoup de produits, versus une marque française qui en fait plutôt 5 nouveaux produits par jour. Donc il y avait une grande accélération avec Zara. Zara s'en est sorti avec quelque chose de très simple, à la fois un rapport qualité-prix qui leur permet de proposer en effet tous ces nouveaux produits, et en même temps une très grande innovation. Un site internet, des puces RFID installées sur tous ces produits, un niveau de service très important, et c'est grâce à cette agilité qu'ils sont sortis. Il y en a d'autres, hein, je pourrais citer Kiabi, comme j'en ai parlé tout à l'heure, je pourrais citer Uniqlo, mais aussi beaucoup de marques françaises se sont transformées, y compris dans le moyen de gamme. Il y a Promode, par exemple, qui le fait très bien, il y a la Fée Maraboutée, et toutes celles-là arrivent à avoir encore un vrai service client. Il n'empêche, avec le volume dont on a parlé tout à l'heure avec Chine, petit à petit, l'agression est telle que la valeur de la mode a disparu.
Vous avez cité Pimkie tout à l'heure, qui s'est associé à Chine, Pimkie, d'ailleurs, ce qui lui a valu d'être mis au banc, si je puis dire,
de l'Alliance du Commerce.
Exactement, hein. De l'Alliance du Commerce. Et en même temps, est-ce qu'ils ne se sont pas sauvés la vie, quoi? Est-ce que ce n'était pas une manière de sauver la vie?
Alors, Pimkie, c'est différent.
Et du coup, est-ce qu'on peut leur en vouloir?
Pimkie, Bleu-Clair, en fait, qui n'ait aucune moralité, c'est une certitude. Qu'ils soient incompétents, c'est aussi une certitude, parce que, ne serait-ce que le patron de Pimkie disait, on ne fait que 6% de chiffre d'affaires sur Internet, quand n'importe quelle marque de mode française fait 10, 15, 20, okay. 50%. Par contre, il y a aussi un problème d'honnêteté, d'où la plainte, par exemple, de l'association familiale des Mulliez contre Pimkie, parce que n'oublions pas, Pimkie a récupéré 150 millions de la part des Mulliez pour redévelopper la marque. Clairement, les caisses sont vides, et c'est parce que les caisses sont vides qu'on va se poser la question de comment ils ont cramé autant d'argent en aussi peu de temps, et ainsi de comprendre pourquoi, non pas ils font une association avec Pimkie et Chine, mais pourquoi ils font une société à côté pour s'enrichir. Donc, de la part de Pimkie, il y a des actes délictuels, et il va falloir creuser. Et en fin de compte, du côté du BHV, c'est exactement la même chose. Parce que le BHV, de son côté, doit aussi des millions aux marques françaises. Il ne paye pas les marques qui sont au sein du BHV. Et ils ont construit, avec Chine, un système de millefeuille dont vous parliez tout à l'heure. On met des produits toxiques, on étrangle les marques, on met aucune taxe qui est payée, et au-dessus, je mets un peu de sucre pour avoir un peu d'esprit de notabilité.
On a un auditeur, Franck Léhuédé, avant de retourner au standard où Elodie nous attend. Je vous ai vu, Elodie, patientez encore un peu. On a un auditeur, Franck Léhuédé, sur WhatsApp, qui nous dit, mais au fond, Chine et toutes ces choses-là, en fait, c'est comme le McDo pour la malbouffe. Donc, c'est le malvêtement, comme il y a de la malbouffe. Et au bout d'un moment, et à la fin, exactement comme McDo, ça va rentrer dans le paysage de nos villes. Et il y aura donc ça, effectivement, qui sera à côté du reste, certes. Mais il y aura ça, de toute façon, qui existera.
À part que c'est un McDo qui donne le cancer. Alors. Donc ça, c'est quand même la finesse. C'est un McDo qui ne paye pas ses taxes, qui ne paye pas la TVA, qui ne paye pas ses employés et qui donne le cancer. Donc ce n'est pas un McDo. En fait, c'est une stratégie marketing qui peut être équivalente, mais derrière, c'est une société qu'il faut clairement interdire de par tous ces actes, justement, de tous ces actes dangereux.
Franck Léhuédé, je reviens quand même à ma question sur le paysage, en fait. Au fond, on ne s'étonne plus de rien. Enfin, je veux dire, à un moment, les McDo, quand ils sont arrivés, on disait, ah, bah, regardez, il y en a un, aujourd'hui, on ne les voit plus. Il va y avoir un moment, et j'entends ce que vous dites, Yann Rivoin-Allant, mais il va y avoir un moment où on ne les verra plus, ou pas?
Mais comme on ne voit plus aujourd'hui ce qui a été une révolution dans les années 2000, H&M qui est arrivé, la fast fashion qui est arrivée, c'est l'étape d'après. On a du côté des consommateurs en plus actuellement une sorte de boulevard qui s'est ouvert, puisqu'on a connu 2 à 3 ans d'inflation qui a été forte, pas nécessairement sur le vêtement, mais sur les produits du quotidien comme l'alimentaire, sur l'énergie pendant un moment, les prix ont augmenté de façon importante, et ben les Français se sont dit comment on va réussir à gérer notre budget au mieux tout en continuant à participer à cette société de consommation dans laquelle les gens veulent continuer à participer. Et ben ils se sont dit, notamment dans le vêtement, là il y a des marques qui arrivent avec Shein, Temu qui nous permettent de le faire, on y va à fond.
Elodie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez, je me dépêche parce que je vous ai vu disparaître, apparaître, disparaître. Maintenant que vous êtes là, j'en profite. Allez-y.
Voilà, je voulais me faire remarquer, visiblement. Alors, du coup, moi, j'ai travaillé plus de 10 ans, en fait, dans la fast fashion, à des postes de responsabilité, dont les usines étaient quand même vérifiées. Hein, donc, on était sur des usines assez honnêtes, mais de la fast fashion quand même. Et moi, en travaillant là-bas, j'ai vu aussi l'envers du décor, qui est la montagne et la montagne d'invendus. Mmh. Alors, quand on est sur de la fast fashion, on a des montagnes d'invendus. Je n'ose même pas imaginer ce que c'est pour l'ultra fast fashion avec Shein. Je vous entendais tout à l'heure, Yann, de savoir comment on pouvait produire autrement, sans l'IA, de manière peut-être un peu plus raisonnée, comment est-ce qu'on peut contrôler ça. Moi, j'ai envie de dire que le vrai sujet, en fait, c'est plutôt comment consommer autrement. Parce qu'en fait, des créateurs qui produisent autrement, on en a plein en France, des créateurs engagés, de la mode durable, de la mode éthique. Et voilà, je vous ai entendu parler de ça plus tôt. C'est le gros problème, en fait, auquel ces créateurs engagés doivent faire face. Évidemment, c'est la compétition face au prix des géants. Cette compétition, elle est impossible, alors même que ces créateurs, eux, appliquent des prix qui sont totalement justes. Et du coup, comme je vous l'ai dit, donc j'ai travaillé plus de 10 ans dans la fast fashion, et moi, c'est avec ce constat je me suis poussée à... Je me suis plutôt envolée et essayé de créer une solution, une alternative à la consommation, parce qu'en fait, c'est plutôt des alternatives de consommation qu'on n'a pas, et du coup, j'ai créé, moi, une plateforme qui s'appelle Loudou, et c'est une plateforme de location de vêtements, alors entre particuliers, parce que, comme vous l'avez dit, on a des tonnes de vêtements dans notre armoire qu'on n'utilise pas, mais aussi avec des créateurs engagés, ce qui permettrait éventuellement aux consommateurs d'avoir accès à une mode durable, mais à des prix un peu plus accessibles. C'est pas révolutionnaire, la location ça existe déjà, mais je trouve qu'il faudrait mettre la lumière aussi un peu plus sur ces initiatives de circularité qui existent et qui nous permettraient de consommer autrement, tout simplement.
Merci Elodie, allez-y, redonnez-le à votre plateforme, puisque vous êtes là, profitez-en. Comment ça s'appelle?
Loudou, donc ça s'écrit loudou.fr.
Eh ben, écoutez,
elle va bientôt sortir, et voilà.
Eh ben, on la guettera. Alors merci beaucoup de votre message, Elodie. Agnès, ouais.
Il y a déjà des changements de consommation. Vinted, la seconde main, c'est aujourd'hui celui qui vend le plus de vêtements en France, donc on s'est mis à la seconde main quand même en France.
Voilà. Oui, il y a des changements, c'est juste qu'il y a parfois des forces contraires, en fait. D'ailleurs, vous allez m'arrêter si je me trompe, Yann Rivo-Allan, mais les vêtements de l'ultra fast fashion, est-ce qu'on les trouve réellement sur les sites de seconde main? Je dirais, est-ce qu'ils tiennent la seconde main? C'est ça aussi. Parce que c'est parce que ça tient pas la seconde main, parfois, qu'on se retrouve avec des montagnes, comme disait Elodie, de fringues ici et là.
Alors, il y a un contraste. Un, c'est des vêtements en plastique, en polyester. Donc, l'avantage du plastique, c'est que c'est solide. Alors, on pue dedans, il n'y a aucune qualité, on ressemble à rien, mais en soi, ça dure. Par contre, est-ce que les consommateurs veulent le racheter? Quand on a acheté un t-shirt à 3 euros, est-ce qu'on va faire l'effort d'essayer de le revendre? Pas nécessairement. À l'inverse, on va pouvoir retrouver des vêtements de bien meilleure qualité, de marques qui étaient certes plus chères, mais qui vont être vendues à moins 70, moins 80%, justement sur toute cette plateforme de seconde main, ou encore dans de très nombreuses friperies. On peut les retrouver, en fin de compte, aussi dans de nombreux magasins, comme par exemple Petit Bateau, qui avait développé son service de seconde main.
Toutes les marques ont des services de seconde main, quasiment.
Voici Florence, pardon Florence, on vous écoute.
Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, moi j'ai une question parce que quand je fais une recherche internet sur n'importe quel vêtement, juste pour voir par exemple ce qu'il y a en boutique en France avant d'y aller, je tombe systématiquement les premiers items, c'est Temu, Shein, toutes les photos c'est que du Shein. Et en fait, je me demande est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi d'agir sur le référencement des sites. Parce que si vous mettez pas derrière votre recherche telle marque, et même si vous mettez la marque, toujours Temu Shein qui rentre en premier et qui sort en premier, et vous galérez à retrouver Et ça, je pense que ça fait que ça banalise aussi de passer par ces plateformes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'agir aussi sur ce facteur-là ?
Merci beaucoup, Florence, pour votre question. Yann Révoilant, est-ce que vous avez cherché dans cette direction-là ou pas ?
Alors, vous voyez très clairement le pacte diabolique de Chine qui, à côté, fait de la contrefaçon tous les jours et, une fois qu'ils nous ont copié, fait de la publicité sur nos marques pour pouvoir vendre ces contrefaçons. On a un vrai souci parce que Google, par exemple, permet de faire de la publicité sur le nom de différentes marques. Et tant que Google laissera cela, ça permettra à des sociétés comme Chine de pouvoir faire toute cette publicité. Pire, pour les marques, non seulement elles se font voler avec leurs clients par ce système, mais si elles veulent faire leur publicité, elles doivent renchérir pour pouvoir apparaître. Et depuis le mois de mai, c'est plus 35% d'investissement pour elles, pour justement encore exister. La solution, c'est à travers la loi anti-fast fashion, qui interdit justement de publicité toutes ces marques qui sont de l'ultra-fast fashion. Or, pour l'instant, on attend encore le go de l'Europe. Tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas le mettre en place.
Il nous faut le nôtre quand même définitivement, non ? Ou est-ce qu'elle est pliée, cette loi ? Il suffit de la mise en œuvre ?
Il faut que l'Europe nous la valide.
Ah oui, d'accord.
Qu'on fasse une commission paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour avoir une seule version. Les deux versions sont assez proches, donc je suis très optimiste. Et après, des décrets d'application.
Donc, ce n'est pas tout de suite. Je voudrais qu'on écoute Guillaume. Bonsoir, Guillaume.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le porte-parole de beaucoup d'auditeurs, Guillaume, avec votre question. Allez-y.
Bah super, j'en attendais pas tant. Oui, effectivement, c'était pour savoir si le fait que M. Castaner, qui est un ancien de nos ministres quand même, le fait qu'il soit au Conseil de responsabilité sociale et environnementale de Chine puisse jouer sur le fait que sur son interdiction en fait en France ou en Europe.
Ancien ministre de l'Intérieur, donc, qui, à votre avis, Yann Révoilant, a pu pousser, en fait. Enfin, je veux dire, quand on a quelqu'un de ce calibre-là, à cette position-là, on peut se poser la question.
Alors, on peut se poser, en effet, beaucoup de questions, non seulement dans le timing, parce qu'il est arrivé 3 mois avant le lancement de la loi, avant le vote de la loi au Sénat, et son contrat s'est arrêté à peine 3 semaines après. Donc, cette coïncidence n'en est évidemment pas une, sachant qu'il y a Castaner, mais il y a aussi Nicole Gage, encore, ou Bernard Splitz, un des fondateurs d'EGRAC et un ancien membre du MEDEF. Donc on a des personnes qui sont clairement influentes et qui ont essayé d'influer. Ils ont évidemment échoué sur le Sénat, mais il faut faire attention à ce lobby parce qu'il peut être partout et aussi invisible, d'où mon inquiétude par exemple sur l'Europe et sur les retours qu'on pourrait avoir sur les critiques de la loi.
Après, on a beaucoup dit, et vous l'avez rappelé Agnès, dans les journaux, l'une des raisons pour lesquelles il vise une partie des galeries, donc les galeries en province, il y en avait 6, hein, je parle de votre contrôle, et le BHV, c'est que ce sont des boîtes qui vont pas bien, et qui ont besoin de se refaire une santé financière. Est-ce qu'elles se tirent réellement une balle dans le pied ? Est-ce qu'on peut les blâmer d'essayer de se refaire une santé financière ?
Alors on ne peut pas blâmer une société en difficulté, en fait, d'essayer en fait de survivre et de se développer. Par contre, on peut se dire, est-ce que la 150e fortune française qui affiche un patrimoine de près de 300 millions qui s'associe avec Chine, est-ce que c'est moral, voire même en fait éthique ? Évidemment non. Donc quand Frédéric Merlin s'associe avec Chine,
c'est du BHV,
en effet, on comprend que il garde l'argent pour lui, il refuse de l'investir dans son entreprise, d'où le scandale supplémentaire qui est tous les millions qu'il doit aux marques françaises qui sont au BHV dans les galeries Lafayette et qu'il ne rembourse pas, qu'il ne paye pas.
Mais de fait, est-ce que c'est susceptible de booster un chiffre d'affaires ou est-ce que c'est une espèce de victoire à la Pyrrhus s'il installe Chine au 6e étage mais que les magasins du 3e étage, eux, décident de partir parce qu'on n'a plus envie d'être associé à ou parce que ça ne marche plus puisque tout le monde va au 6e, c'est peut-être une victoire à la Pyrrhus. Est-ce qu'on sait évaluer ça, à votre avis, ou pas ?
Alors c'est très clair. Je peux prendre des marques, par exemple, comme Tara Jarmon, comme Zappa, comme Audage, etc. Tout le monde est déjà parti ces derniers jours et ces dernières semaine, parce que justement, personne n'est payé. Évidemment, il y a encore beaucoup d'autres marques qui vont partir ces prochains jours. Allez faire un tour vendredi, par exemple, dans le magasin, vous allez voir, il va y avoir des cartons partout, et le magasin va être vidé. Le but de Chine, c'est de faire un méga store. C'est éventuellement de se marier avec quelques marques françaises, en fait, par-ci, par-là. Mais avant tout, c'est de faire un méga store en face de la mairie de Paris, en face, en plein centre-ville, et de l'avoir non seulement à Paris, mais à Angers et dans toutes les villes de région, de province, justement, dans lesquelles il y a toutes les galeries Lafayette.
Il nous reste une poignée de secondes, Marc Le Huédé. Je voudrais savoir ce que ça veut dire quand même que le pays test, ce soit nous, en fait.
Bah, on est un pays important quand même en Europe, de par le nombre de personnes qui vivent en France. Et donc, rien que cet élément-là peut être important. Après, il y a sans doute des éléments stratégiques qui peuvent être pris en compte. Mais en tout cas, d'un simple point de vue démographique, il y a l'Allemagne, il y a la Grande-Bretagne, il y a la France.
C'est quoi. Ça. Mais on est les plus forts, si je puis dire.
On est les meilleurs clients, on va dire.
On est les meilleurs clients. En Angleterre, s'ils sont encore un peu en retrait, en Italie, ouais. En Espagne aussi.
3 milliards de CA pour nous, de chiffre d'affaires pour nous, chez nous, pour Chine, et 2 milliards pour les Anglais. Ce sont des chiffres étonnants. Je vous remercie chaleureusement.
Alors, je veux un dernier point.
Super vite, en fait, Yann Rivoire.
Le combat n'est pas fini. La Banque des Territoires devait travailler avec le BHV, devait alimenter le BHV pour qu'ils puissent le racheter. Clairement, désormais, ils ne le veulent pas. Et Olivia Grégoire, qui avait fait un formidable travail en tant que ministre, nous a montré justement que la bataille va pouvoir aussi continuer.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous pour vos nombreux appels. La question des petits bateaux ce soir, c'est celle de Victor.